Morning Edition from NPR News.
Let's eat in San Pinto House.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous vous ramenons en Birmanie où l'on attend une nouvelle condamnation d'Aung San Suu Kyi, procès à huis clos, procès fantoche. Mais tout cela nous pousse à parler de ce pays, à le suivre. 10 mois après un coup d'état de la junte militaire, une junte qui, malgré ses efforts, malgré la répression, ne parvient pas à éteindre l'envie de démocratie. On y vient tout de suite. Le bruit du monde ce soir est à Raqqa, l'ex-capitale de Daesh, qui essaye tant bien que mal de redevenir ce qu'elle a été, mission presque impossible. Je vais vous emmener chez les chrétiens, persécutés, décimés même. Vous verrez comment on essaye de vivre dans cette communauté aujourd'hui. Le bruit du monde, la suite, sous les radars. Sébastien Logeny a trouvé du cannabis récréatif à Malte. Une patinoire remplie de billets de banque, c'est dans le Dakota, et un saphir monumental au Sri Lanka. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce avec une pub pour la poste norvégienne qui va vous étonner. 18h55, c'est le monde d'après de Franck Madvon en Tunisie qui poursuit sa dérive autoritaire. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Sophie Boisseau-Durocher.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales, spécialiste notamment de la Birmanie. Je le disais, Aung San Suu Kyi a été condamnée d'abord une première fois, c'était la semaine dernière, 4 ans, puis ramenée à 2 ans de prison pour incitation au trouble public. Notamment, d'autres condamnations sont dans les tuyaux et vont suivre à partir de maintenant jusqu'à la semaine suivante avec des charges qui vont de la sédition jusqu'à la corruption. On parle aussi de violation de règles sanitaires, on parle de possession de talkie-walkie, ça donne quand même une bonne idée. Donc on voit bien que tout cela est cousu de fil blanc, Madame Boisseau-Durocher. Mais est-ce que ça veut dire quand même que cette femme qui a 76 ans fait encore peur à la junte birmane ?
Ah ça c'est sûr. C'est sûr qu'elle fait peur à la junte birmane parce que c'est une icône. Mmh. C'est une femme dont on ne peut pas, en dépit de ce que la junte essaye de faire, questionner la probité et l'engagement politique. Elle a eu des difficultés, on pourra y revenir, et elle n'a pas réussi sur tous les plans. Mais néanmoins, son engagement ne fait aucun, en faveur de la démocratie et de l'unité nationale, ne fait aucun doute. Et donc, elle fait peur parce que, en fait, c'est la seule personnalité politique en Birmanie aujourd'hui qui peut, du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, mobiliser, qui peut véritablement lancer, si vous voulez, un mouvement pour sortir le pays de l'ornière. Donc, en fait, elle reste précisément une figure tutélaire de cette transition, touchée à Aung San Suu Kyi, c'est touché au cœur de la Birmanie, c'est touché au cœur des Birmans, et ça, la junte sait que ça ferait descendre l'ensemble de la population à nouveau dans la rue. Donc, si elle attentait véritablement à la vie d'Aung San Suu Kyi, il est évident qu'il y aurait des manifestations magistrales et que là, l'autorité de la junte serait complètement battue en brèche.
Mais est-ce que, du coup, c'est pas une très mauvaise lecture de la part de la junte qui pense qu'elle est moins dangereuse enfermée ? L'est-elle vraiment moins dangereuse enfermée pour eux, en tout cas ?
Ah, pour eux, certainement. Parce qu'il faut bien comprendre, quand même, se remettre dans la position de la situation juste avant le coup d'État. Madame Aung San Suu Kyi et le parti la Ligue Nationale pour la Démocratie ont remporté les élections haut la main, 82% des scrutins, donc c'est absolument magistral, et il est évident qu'elle a annoncé le programme, retirer à l'armée les pouvoirs constitutionnels qu'elle s'est auto-octroyés. Et donc l'armée sait parfaitement que la transition politique poussée à bout, voudrait dire une perte de ses avantages et une perte de ses positions sur l'échiquier politique national.
Et alors néanmoins, est-ce que la junte se tire quand même une balle dans le pied, puisque cette nouvelle condamnation redore le blason d'Aung San Suu Kyi, la remet dans la communauté internationale, alors que, vous l'avez évoqué à demi-mot, elle a été sévèrement jugée, notamment pour sa gestion de la crise des Rohingyas. On a l'impression qu'on a mis ça derrière depuis le coup d'État. Donc est-ce que précisément, c'est aussi ce qui peut la rendre plus forte, en tout cas aux yeux de la communauté internationale ?
Écoutez, non, je crois qu'il faut quand même être réaliste. L'avenir politique de Madame Aung San Suu Kyi est absolument fini. Ouais. Et que donc, aujourd'hui, d'abord, je crois qu'elle-même, si vous voulez, ne souhaite plus, à 76 ans, reprendre un combat qui serait vraiment maintenant un combat important. Mais ça ne veut pas dire que son héritage ne va pas se développer. Et précisément, ça, c'est une chose absolument extraordinaire à laquelle nous assistons aujourd'hui. C'est de voir qu'on peut enfermer Madame Aung San Suu Kyi, le combat pour la démocratie continue. Et c'est véritablement encourageant. Donc, quelle est la position aujourd'hui de la communauté internationale face à ce face-à-face entre d'un côté une armée qui se raidit et de l'autre côté une population et notamment une jeunesse qui s'engage? C'est véritablement que fait-on? Et ça nous renvoie, si vous voulez, à la cohérence de notre message, notamment en matière démocratique. Et on voit bien, si vous voulez, que les pays de l'ASEAN sont relativement, je dirais, arrivent à peu près à gérer la situation de flottement et demandent, en refusant aux dirigeants de la junte, le général Min Aung Hlaing, de participer à la réunion de l'ASEAN en octobre dernier, demandent des comptes, en fait, et demandent qu'il y ait un respect d'un dialogue. Les États autoritaires qui soutiennent la junte, notamment la Chine et la Russie, eh bien, eux sont très contents et n'interviennent pas. Et les pays occidentaux, eh bien, malheureusement, les pays occidentaux continuent à condamner de façon vocale, dans un tollé absolument indigné, mais finalement à tarder à prendre des mesures très concrètes pour véritablement soutenir cette jeunesse.
Commander, vous le disiez, effectivement, on a entendu du bruit, mais on n'a pas entendu grand-chose. On a entendu Anthony Blinken récemment, c'était vraiment pas grand-chose. On n'a pas entendu non plus reconnaître la forme de gouvernement en exil qui s'est formée, notamment en avril dernier. On n'a rien entendu de tout ça. Qu'est-ce qui fait peur à la communauté internationale aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours le même cercle, si j'ose dire? On a suffisamment d'ennuis avec la Chine en ce moment, avec la Russie, d'ailleurs, c'est pas mieux. Donc on laisse tomber les Birmans, c'est ça, vous pensez?
Oui, et puis on réalise surtout que ce combat est un combat de longue haleine, si vous voulez, et que soutenir aujourd'hui la jeunesse birmane, ça veut dire s'engager très concrètement pour les 50 prochaines années. Alors, c'est évidemment un investissement important, mais on a d'autres soucis à court terme, et je crois qu'on n'est pas prêt véritablement à prendre la mesure de la détermination de ce mouvement de désobéissance civile qui, aujourd'hui, s'engage dans des combats très concrètement. Donc, on a véritablement aujourd'hui une situation de violence extrême dans un contexte de crise économique et de crise sanitaire majeure. Donc un pays qui est complètement à la dérive, et ce que on doit quand même réaliser, c'est que ce coup d'État, en dépit de ce que dit la junte, est un échec complet.
J'allais vous poser exactement la question, est-ce que c'est pas ça qu'on voit finalement depuis presque un an? Le coup d'État est raté. Alors je ne sais pas très bien ce qu'imaginait la junte, si ce n'est que la force de l'habitude s'est dit que tout le monde allait rentrer chez soi et que ça allait être bien tranquille comme ça. Mais oui, en effet, le coup d'État est raté. On descend toujours, même au péril de sa vie, le dimanche dans les rues,
De Yangon et de Mandalay. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend bien compte que l'armée, qui représente quand même 350 000 personnes environ, vit dans ces baraquements et ne vivait pas finalement dans la société civile. Et que cette société civile avait complètement, s'était complètement transformée ces 5-10 dernières années, et elle n'a pas pris la mesure de ces changements. Et elle n'a pas compris qu'une jeunesse qui constitue quand même plus de 30% de la population qui a moins de 20 ans, qu'une jeunesse qui a vécu avec l'espoir et puis la réalisation de cette transition, n'a aucune envie de revenir à la chape de plomb qui était la Birmanie dans les années 2000, enfin, et pire avant. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que précisément Aung San Suu Kyi et la LND sont liés, si vous voulez, à cet énorme espoir. C'est une promesse pour entreprendre, c'est une promesse pour se réconcilier, c'est un pays qui a tout d'un coup vécu un appel d'air salvateur. Et puis tout d'un coup, on dit que c'est terminé. Mais c'est hors de question, si vous voulez. Parce qu'on sait parfaitement, et les Birmans l'ont quand même vécu pendant 50 ans, on sait parfaitement ce que ça veut dire que l'armée au pouvoir.
Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe, Sophie Boisseau-Durocher, à l'intérieur et aussi à l'extérieur. À l'intérieur, donc on le disait, courageusement, les gens continuent à sortir. Vous avez parlé de guerre tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire qu'on en est là aujourd'hui, qu'on est passé à une méthode de résistance qui est beaucoup plus active? Il y a même des groupes d'entraînement, etc. Est-ce qu'on dit aujourd'hui qu'il y a une guerre civile en Birmanie?
Il y a effectivement une guerre civile aujourd'hui en Birmanie qui qui est en train vraiment de se mettre en place, et qui est en train de se mettre en place depuis plusieurs mois. Et ça, c'est un changement aussi, d'ailleurs, par rapport au discours d'Aung San Suu Kyi, qui voulait toujours rester dans les limites de l'état de droit. Aujourd'hui, on a une jeunesse, on a d'abord le courage de la population qui refuse la répression, en dépit des arrestations massives, des tortures, des viols, etc. Et donc, on a un mouvement de désobéissance civile qui s'organise, qui bloque l'économie. On a eu, au mois d'avril, un comité représentatif du Parlement élu, et puis un gouvernement d'unité nationale en exil, qui s'est formé, et la rue continue à résister. Ce qui se passe, c'est que face au courage de la population, face à son audace aussi, voire à son inventivité dans ses pratiques et dans ses modes opératoires, l'armée continue à réprimer. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas d'autre solution, puisque aucun dialogue n'est possible, il n'y a pas d'autre solution que de prendre les armes. Et donc, de plus en plus de jeunes ont rejoint la résistance, et notamment les régions périphériques. Vous savez, vous avez cette grande plaine centrale, et puis toutes ces régions montagneuses en arc de cercle autour de cette plaine. Donc, ces régions sont aujourd'hui des zones de combat, et selon la jeunesse et selon les forces de défense populaire, donc cette armée de jeunes qui s'est formée de façon quasiment spontanée, on se mobilise pour enclencher des actions de guérilla et d'embuscade afin de désarmer l'armée, si vous voulez.
Mais c'est vraiment. Combien de divisions? Vous avez dit qu'il y avait 300 000 militaires à peu près dans la
jeunesse. 350
000. 350 000. C'est combien de divisions, pardon, les forces de défense
populaire?
Entre
8 et 10 000, donc c'est très peu. C'est très peu, on est bien d'accord. Mais si vous voulez, il y a là, pour la première fois, c'est ça dont il faut vraiment prendre la mesure, il y a vraiment un mouvement spontané pour s'organiser. Ce qui est vraiment important, et ce sur quoi j'insiste, c'est que c'est un mouvement qui est rejoint par les différentes forces ethniques, et donc pour la première fois...
Qui ont été ennemies autrefois. D'ailleurs, les différentes forces ethniques les unes avec les autres, ont été ennemies autrefois.
Absolument. Elles étaient ennemies, mais surtout, l'armée travaillait à les diviser, puisque l'armée préfère évidemment avoir un front divisé en face d'elle. Et là, pour la première fois, l'armée a un front uni. Donc, il faut véritablement prendre la mesure de ce que ça veut dire pour que ce mouvement dure et que l'armée n'ait pas le dernier mot.
On dit qu'il y a quelques défections quand même dans l'armée birmane. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui sont en train de se déliter? Parce que en vous écoutant, on se dit, ok, comment ça finit cette histoire-là, si ce n'est effectivement dans une guerre de plus en plus forte et de plus en plus importante,
dans une guerre d'usure,
dans une guerre
aussi.
D'usure, dans une guerre presque de dans une guérilla urbaine, c'est ce que je cherchais. Est-ce qu'il y a des effections donc réellement dans l'armée? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui se fissurent ou pas du tout?
Alors c'est très intéressant parce qu'il y a effectivement, on a calculé qu'environ 2000 soldats avaient déserté. Donc si vous voulez, il y a un mouvement qui est actuellement en marche. On calcule, enfin selon certains chiffres, on a assisté depuis le mois de mai à 1000 attaques terroristes, à 2400 attentats à la bombe. Donc vous voyez que c'est pas une résistance qui est passive. Des incendies criminels et on a même eu d'ailleurs des assassinats. Donc il faut bien comprendre, si vous voulez, que aujourd'hui ce mouvement de résistance bénéficie aussi des compétences et des talents de ces soldats qui ont fait défection. Ça, c'est un point important. Et un autre point important, c'est que ces soldats font défection parce qu'ils disent, au fond, on n'a pas rejoint l'armée pour tirer sur le peuple, mais pour défendre le peuple. Et que la meilleure façon de défendre le peuple birman aujourd'hui, c'est de rejoindre les rangs de la résistance. Et ça, c'est un courant qui, à moyen terme, pourrait l'emporter.
Vous l'avez dit, Sophie Boisseau-Durocher, c'est contraire à ce qu'a toujours fait Aung San Suu Kyi. Est-ce qu'on dit aussi que c'est la génération d'après qui est en train aussi de s'affranchir de la figure tutélaire dont vous parliez au début de cet entretien?
C'est absolument, et c'est une bonne chose d'ailleurs, parce qu'elle est à la fois très respectueuse de l'héritage de Mère Suu, comme ils l'appellent, donc ils en tiennent compte et ils savent parfaitement à nouveau la valeur de son engagement, puisque c'était un engagement de vie personnelle, qui a été complètement sacrifié pour la transition de la Birmanie, mais en même temps, ils connaissent également les limites au fond de cette femme qui a un énorme charisme, mais qui est aussi un peu autoritaire et qui n'aime pas beaucoup partager le pouvoir. Mmh. Donc aujourd'hui, ils savent que il faut s'en affranchir et il faut faire ses preuves. Et c'est véritablement ce qui est très touchant quand on discute, et je discute avec eux à travers des messageries, ils sont étonnants d'enthousiasme et d'engagement pour véritablement sortir leur pays de l'ornière en disant de toute façon, même la situation de résistance difficile dans laquelle nous sommes est mieux qu'une situation de soumission à l'armée.
Et il y a une relève, en quelque sorte, justement parmi cette jeunesse. Je pense à des youtubeurs, je pense à des rappeurs, je pense à tous ces gens-là. Et vous savez pourquoi je vous pose la question? À l'instant, on parlait de Biélorussie. L'opposant en chef qui est désormais en prison pour 18 ans, à la base, c'est un youtubeur. C'est comme ça aussi que ça monte à l'intérieur d'une société.
Absolument. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a aujourd'hui un mouvement qui s'appelle les soldats du peuple, qui accueille, si vous voulez, ces militaires qui ont fait défection et qui n'agit que par les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux ont une importance capitale aujourd'hui pour échanger, pour donner de l'information et pour convaincre surtout de rejoindre ce mouvement. Donc petit à petit, on peut espérer qu'une dynamique positive se mette en place et que la résistance s'organise avec aussi, et c'est indispensable, le soutien au moins diplomatique des pays démocratiques.
Une toute dernière chose, Sophie Boisseau-Durocher, rapidement, vous avez parlé de la situation catastrophique économiquement de la Birmanie aujourd'hui. Est-ce que c'est par là aussi que peut venir une forme de salut? Parce qu'à un moment, ça devient intenable quand on a du mal à manger, quand on ne peut plus travailler, quand il y a des blocages de ce type-là. Est-ce que c'est aussi de ce côté-là que peut venir une ouverture?
On peut espérer. La Banque mondiale a annoncé que pour 2021, l'économie birmane serait en recul de 18%. Donc c'est absolument colossal. Il n'y aura pas de récolte, il n'y a plus d'agriculteurs. Donc la situation économique et effectivement alimentaire de base n'est pas assurée aujourd'hui. Et puis tout ça dans un contexte de crise sanitaire dont on connaît très peu de choses, mais on sait simplement que la contagion continue. Effectivement, c'est une situation de crise explosive.
Sophie Boisseau-Durocher, chercheuse à l'Institut français des relations internationales. Merci beaucoup, merci vraiment de votre passage chez nous.
Bonne soirée.
Merci.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe à Raqqa, qui depuis le départ de Daesh sort de ses cendres avec tellement de difficultés. C'est le cas des chrétiens notamment, qui vivaient là depuis des générations. De cette communauté, il ne reste quasiment personne, on y viendra. La troupe qui nous emmène jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logénie.
On partira pour un pays qui regorge de pierres précieuses, Fabienne. Le Sri Lanka en passe de battre le record du plus gros saphir. On parle quand même de plusieurs centaines de kilos.
Passons genre dans le monde et Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir, avec un Père Noël, on va dire, très ouvert d'esprit en Norvège.
Allez, le monde d'après, c'est vous, Franck Madbon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne. En Tunisie, le président Kais Saied confisque le pouvoir. Faut-il s'en inquiéter? Réponse tout à l'heure.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue avec Billie Eilish, Billie Bossa Nova sur France Inter.
Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. You go. I'm sorry if it's torture though. I know, I know. It might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but
Ce soir, retourne à Raqqa, en Syrie, faut-il le rappeler, ancienne capitale de Daesh au pire moment. Les djihadistes ont été chassés en octobre 2017, mais pendant ces mois de terreur, les chrétiens ont été particulièrement traqués, persécutés, tués. Le vivre ensemble de Raqqa, le mélange des communautés, a été balayé par Daesh. Des familles chrétiennes, il y en avait 500, il en reste 5. Le reste, c'est Noé Pignède et Céline Martelet qui racontent.
Derrière des murs en parfait état, un bâtiment attire le regard en plein cœur de Raqqa. Contrairement aux immeubles voisins, on devine qu'il a entièrement été refait il y a quelques mois. C'est une église de rite arménien postée à l'entrée, juste après un portail noir. Un gardien ouvre les portes.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, toi ? Tu as les clés pour nous ouvrir ?
Oui, j'ai les clés. Après toi.
Melem est le gardien de l'église. Il a une soixantaine d'années, il est musulman et il est le seul à avoir les clés de l'édifice religieux. Ce jour-là, il ouvre la porte à Naja, l'une des dernières chrétiennes de Raqqa. Elle a baptisé ses 4 enfants dans cette église. Et puis en 2014, Daesh a pris le contrôle de la ville.
Daesh s'est installé dans cette église. Ils en avaient fait un bureau pour la police islamique. Il y avait une prison aussi. Ils voulaient faire disparaître les chrétiens, nos églises et toutes les religions autres que la leur.
L'église a été reconstruite grâce aux fonds d'une ONG chrétienne basée aux États-Unis, mais il n'y a pas de croix encore, il n'y a pas de prêtre non plus pour les cérémonies. Elle reste donc vide, un peu perdue au milieu des bancs recouverts de poussière. Naja préfère donc quitter cette église pour nous présenter sa famille. Naja vit au rez-de-chaussée de sa maison dont les étages ont été soufflés par une frappe aérienne. Autour d'elle, ses enfants et ses petits-enfants.
On n'a pas grand-chose, comme vous le voyez. Juste des matelas au sol pour dormir et rien d'autre. Notre maison a été en partie détruite, donc on vit à 12 dans 3 chambres.
La chrétienne porte fièrement dans ses bras son dernier petit-fils enveloppé dans un drap blanc. Le bébé est né il y a quelques jours.
Je suis triste parce que ce bébé ne peut pas être baptisé. On n'a pas de prêtre dans notre église. Et c'est indispensable pour notre religion. Donc, il n'est pas chrétien pour le moment. J'espère que Dieu me pardonne. Je suis certaine qu'il voit combien notre vie est difficile maintenant. Tout cela, c'est à cause de la guerre. Avant, la vie était stable dans la ville. Avant, toutes les communautés vivaient ensemble. Personne ne te demandait si tu étais arabe, chrétien ou kurde. Personne ne savait qui était chrétien, par exemple. On parle, on mange ensemble avec nos voisins, mais personne ne faisait attention à la religion.
Sous Daesh, les chrétiens devaient chaque année payer une taxe à l'organisation terroriste pour pouvoir rester à Raqqa. Plusieurs membres de cette communauté ont été exécutés, accusés notamment d'espionnage. Alors aujourd'hui, Maria, la fille de Naja, vit encore dans la peur.
J'ai peur qu'un autre groupe comme Daesh vienne et reprenne le contrôle de la ville. Je veux partir d'ici pour aller n'importe où.
Parmi les 5 dernières familles de chrétiens encore à Raqqa, un couple âgé, Rosemary et Elias. Ils n'ont jamais quitté la ville, même en octobre 2017, lorsqu'un déluge de feu s'est abattu sur Raqqa pour chasser les derniers djihadistes. Elias est mécanicien. En 2016, il a été arrêté par Daesh parce qu'il refusait de réparer une voiture.
Je suis resté en prison 7 mois. Un Français m'a dit qu'il allait me couper la tête. Son nom, c'était Abdallah. Il était jeune, gros, avec une longue barbe et les yeux bleus. Il m'a demandé de me convertir à l'islam. Je lui ai répondu que je ne voulais pas, que je voulais rester chrétien. Et je lui ai demandé s'il me laisserait sortir si je devenais musulman. Il m'a dit non. Alors je lui ai fait remarquer que quand il était en France, il buvait du whisky, il dansait et maintenant il allait me dire qui être. Un jour, ils m'ont apporté la tenue orange dans ma cellule. C'était un mercredi et je devais être tué le vendredi. Mais le jeudi, une frappe aérienne a visé la prison et j'ai pu sortir.
Aujourd'hui, âgé de presque 70 ans, gravement malade, Elias s'enchaîne cigarette sur cigarette et il le répète, chrétien de Raqqa, il ne quittera jamais sa ville.
Noé Pignède et Céline Martelet pour leur reportage. Merci vraiment à vous deux. Le bruit du monde, la suite, c'est toute l'actualité internationale. Passez sous les radars et c'est Sébastien Logeny qui rattrape tout ça au vol. Mais qu'est-ce que c'est interdit en studio, cette affaire, et même d'ailleurs ailleurs. Nous sommes sur l'île de Malte qui s'apprête à devenir aujourd'hui, Sébastien, le premier pays européen à légaliser l'usage de la culture du cannabis récréatif.
Tout à fait. Plusieurs pays de l'Union européenne ont déjà dépénalisé la consommation et la détention de marijuana à usage privé ces 20 dernières années. On pense évidemment aux Pays-Bas, mais cette petite île de Méditerranée va donc beaucoup plus loin. Les Maltais seront désormais autorisés à posséder 7 grammes de cannabis maximum sur eux. Il sera aussi possible pour chaque adulte de plus de 18 ans de cultiver jusqu'à 4 pieds de cannabis hors de la vue du public. Au-delà de 7 grammes, c'est une amende de 100 euros. Interdit également la consommation en public, passible d'une amende de 235 euros et la consommation devant un mineur. Enfin, le texte prévoit aussi la création de cannabis club avec la formation d'associations à but non lucratif permettant la production et la vente de cannabis à ses membres, 500 membres maximum par structure. On entend ici le ministre de l'égalité, Owen Bonici, qui défend sa réforme, qui ne vise pas, selon lui, à inciter à la culture ou à la consommation du cannabis, mais à réduire les méfaits du trafic de drogue. Nous voulons, dit-il, réduire les souffrances, l'humiliation et la privation d'autres droits, notamment pour les consommateurs de petites quantités. La réforme a été votée cet après-midi par le Parlement maltais, un vote regardé de très près par beaucoup d'autres pays européens qui devraient se lancer également dans la légalisation l'an prochain, en 2022, comme la Suisse, le Luxembourg et surtout l'Allemagne, qui devrait devenir le plus grand marché légalisé de cannabis au monde.
Direction une patinoire du Dakota du Sud, c'est aux États-Unis, au cœur d'une polémique depuis ce week-end.
Tout partait d'une bonne intention, Fabienne. Samedi dernier, une banque et une équipe de hockey sur glace locale, les Sioux Falls Stampede, organisent un événement caritatif. Ils proposent à des enseignants du coin 5 000 $ pour financer les fournitures scolaires de leurs écoles respectives. Sauf que c'est la façon de les gagner, ces 5 000 $, qui va poser un peu problème. On entend là l'ambiance de la patinoire sur la glace. Soit imaginez agenouillés, une dizaine d'enseignants volontaires qui ont 5 minutes maximum pour ramasser des billets de 1 $. Ils en mettent dans leur pull, dans leur bonnet, dans leur pantalon, rappelant encore l'esprit Squid Game, cette série Netflix où les concurrents s'entretuent pour de l'argent. Bref, un jeu totalement dégradant et humiliant, au point que la banque et l'équipe de hockey ont fini par s'excuser hier auprès de tous les enseignants du Dakota du Sud, qui sont par ailleurs les enseignants les plus mal payés des États-Unis.
Eh bien, on parle gros soutien encore là avec le plus gros saphir du monde découvert au Sri Lanka.
Et qui a déjà un nom de légende, Queen of Asia, la reine d'Asie. La pierre en question a été découverte il y a 3 mois et présentée ce dimanche à la presse après avoir été bénie par un groupe de moines bouddhistes. Cet expert sri lankais est formel. C'est le plus gros galet de corindon, dit-il, du monde. Le corindon non scientifique du saphir. Il a été trouvé dans une fosse de pierres précieuses à Ratnapura, surnommée la ville des pierres précieuses. Et l'expert de donner le poids de cet énorme bloc de pierre bleue. Tenez-vous, Fabienne, tenez-vous bien. Le saphir,
en effet, faut se tenir.
Le saphir fait 310 kilos. 1,6 million de carats. Sa valeur est estimée à 100 millions de dollars, un caillou impressionnant, mais qui doit encore être validé toutefois par une certification internationale indépendante. Le précédent record de saphir était déjà détenu par le Sri Lanka, qui est en fait l'un des plus gros exportateurs mondiaux de pierres précieuses grâce à sa géologie. L'an dernier, ce pays de 23 millions d'habitants a déjà exporté pour 500 millions de dollars de pierres dans le monde, un demi-milliard dont 10% reviennent directement à l'État. Il faut le savoir, là-bas, c'est la loi, le saphir est un bien national.
En même temps, un pendentif de 310 kilos, là, ça commence à faire un peu lourd. Allez, Sébastien, vous avez le droit de partir. Nous restons avec des accents un petit peu similaires. Pas tout à fait, on n'est pas loin. On est au Pakistan. Ceux qui ont la mémoire se souviennent de cette invitation de Peter Gabriel en 1990 avec Nusrat Fateh Ali Khan. Mush Mush, Lost in His Work. C'est long, hein?
Mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast dam mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast mera wird hai dam dam ali ali mera wird hai dam dam ali ali sakhi lal kalandar mast mast sakhi lal kalandar mast mast dule lal kalandar mast mast dam mast kalandar mast mast dam mera wird hai dam dam ali ali mera wird hai dam dam ali ali sakhi lal kalandar mast mast sakhi lal kalandar mast mast dule lal kalandar mast mast dam mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast dam
Nusrat Fateh Ali Khan sur France Inter. Mesdames, messieurs et autres genres, voici Julia Foyce.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. Vous nous avez déniché pour ce soir, comme chaque année, la campagne de Noël à ne pas rater.
On la doit au poste norvégienne. Tous les codes du film de Noël y sont. Il y a ce qu'il faut de paysages enneigés, de bois brûlant dans la cheminée, de lumière tamisée. Mais au premier plan, c'est un homme, pas un enfant. La cinquantaine plutôt enlevée, le cheveu poivre et sel. Et pardon, mais je dirais qu'il est plutôt bien gaulé, le bougre. En pleine nuit, il entend du bruit, descend au salon et là, un homme à la barbe longue, aux sourcils touffus, costume rouge et blanc, vous l'avez reconnu évidemment, échange de regards entre les deux et hop, le second disparaît dans la cheminée. Bah oui, c'est le Père Noël, hein, Fabienne, oui. Si vous suivez. Chaque Noël, ces deux hommes vont se retrouver à partir de là et puis se mettre à parler ensemble, à se faire des petits cadeaux, à se sourire et puis à rire tous les deux. Entre deux rendez-vous, celui qui attend tentera d'oublier. C'est une messe avec ses nièces, un dîner avec des amis, des moments partagés qui peinent à faire oublier l'absent. Et l'attente est de plus en plus longue, les séparations de plus en plus rude jusqu'à ce que cette année-là, on sonne à la porte. C'est la postière, c'est elle qui cette fois lui apporte ses cadeaux, regarde l'homme un peu déçu, je dirais, puis retour dans le salon, épaules basses et cadeaux plein les mains. Eh oui, c'était son Père Noël qui l'attendait et qui lui dit « Je me suis débrouillée pour avoir de l'aide cette année, que je puisse rester un peu avec vous. » Les yeux dans les yeux, les visages se rapprochent, la caméra zoom, plan serré, le temps se suspend. Les deux hommes s'embrassent comme on aimerait tous être embrassés, surtout sans Covid, hein, évidemment. La caméra dézoome, quitte la pièce, la maison, laisse les amoureux tranquilles dans le salon. Et puis, ce slogan « plein pot ». En 2022, ça fera 50 ans qu'en Norvège, on peut aimer qui on veut. Ouais, car en Norvège, l'homosexualité était dépénalisée en 1972. Alors voici les mots de la fin. Joyeux Noël et bonne année de tous à tous.
Allez, on enchaîne avec le mot de la semaine, Julia.
Vous connaissiez le copyright, voici le bodyright, un petit B placé dans un cercle que vous pourrez ajouter sur n'importe quelle photo de vous au moment de la poster sur le web ou les réseaux sociaux. Ce symbole, c'est celui qu'a choisi le Fonds des Nations Unies dédié à la défense de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction, l'UNFPA. Et c'est sous le signe de ce bodyright que se lance, et pour 15 jours, toute une campagne de lutte contre les violences de genre commises et subies en ligne. L'UNFPA est partie d'un constat. Si les États ont pu mettre au point une législation protégeant le droit d'auteur et la production artistique, rien, ou si peu, ne préserve les femmes de discours haineux ou de diffamation quand elles s'expriment sur les réseaux sociaux. Or, elles sont les premières victimes de ce qu'on appelle le cyberharcèlement. D'après l'instance onusienne, 65% des femmes interrogées ont déjà connu en ligne des insultes, des menaces ou vu des photos d'elles détournées, exhibées, moquées. Sans ressources législatives capables de les défendre, elles en sont conduites la plupart du temps à fermer leur compte Twitter, Instagram ou autre. En clair, elles n'ont d'autre choix que de se taire ou de s'effacer. D'où cette pétition lancée parallèlement par l'UNFPA pour rappeler les pouvoirs publics et les responsables de toutes les plateformes à prendre des mesures concrètes et vite pour que se sentent en sécurité sur Internet, disons la moitié de l'humanité.
Allez, nous partons pour le Pérou et on termine avec une pluie de chiffres.
1307, c'était le nombre exact de plaignants, des femmes à une écrasante majorité, dans cette affaire qui a nécessité 19 ans de bataille judiciaire, 9 mois d'audience avec la lecture de 180 pièces à conviction. C'est ce qu'on appelle un procès monstre. Au bout du compte, l'ex-président Alberto Fujimori sera bel et bien jugé pour la stérilisation forcée dans la seconde moitié des années 90 de, tenez-vous bien Fabienne, 250 000 à 300 000 personnes, qui, principalement des populations pauvres et ou autochtones. Après de multiples rebondissements, les victimes entrevoient enfin l'espoir que leur soit reconnu ce qu'on leur a fait subir. Quant à l'ex-chef d'État, il a appris la nouvelle en prison, où il purge actuellement une peine de 25 ans pour massacre et violation des droits humains. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je crois que je préfère mon Père Noël norvégien.
Voilà, bah revenez avec lui mardi prochain. Merci, Julia.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, en Tunisie, le président Kais Saied a dévoilé hier son calendrier électoral. Il a prolongé la suspension du Parlement annoncée cet été. Il programme de nouvelles élections législatives dans un an. Deux ans après son élection, il confisque donc un peu plus le pouvoir et cette dérive autoritaire soulève beaucoup de questions.
Le discours de Kais Saied a duré une quarantaine de minutes hier soir. Seul à la télévision, debout derrière son pupitre, costume sombre, le président a été fidèle à son style, solennel, austère. Il a présenté froidement son plan. Le Parlement sera donc suspendu un an de plus, jusqu'en décembre 2022, date des prochaines élections, vous l'avez dit. Quand il avait annoncé la suspension du Parlement cet été, la plupart des Tunisiens avaient applaudi. Cette fois, ils se disent qu'un an, c'est beaucoup. D'ici là, il veut soumettre à référendum des amendements à la Constitution. En juillet, une consultation populaire est prévue de janvier à mars pour recueillir l'avis des Tunisiens sur Internet, puis au niveau local, tout ça reste assez flou à ce stade. Ce qui semble clair, c'est que la constitution de 2014, issue de la révolution de 2011, ne tient plus qu'à un fil. L'ancien juriste Kais Saied n'a jamais vraiment cru en un régime parlementaire et la présidentialisation du système ne fait aujourd'hui guère de doute. À ses yeux, les députés sont au mieux inutiles, au pire corrompus. Il déteste en particulier les islamistes du parti Ennahda, majoritaire au Parlement, et c'est vrai, de plus en plus impopulaire.
Mais alors Franck, comment réagit la population tunisienne ?
Alors il faut d'abord redire qu'en juillet dernier, quand Kais Saied a limogé le gouvernement et gelé le Parlement, seul Ennahda et une minorité de Tunisiens ont crié au coup d'État. La population a plutôt bien accueilli la décision. Elle y a vu une réponse à ses protestations contre la corruption, l'immobilisme des parlementaires, la crise économique aggravée par le Covid. Même l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, la puissante centrale syndicale, Nobel de la paix en 2015, a salué l'initiative. Aujourd'hui, place à la circonspection au mieux. Beaucoup d'organisations, dont l'UGTT, s'inquiètent de la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Vendredi déjà, les ambassadeurs des pays du G7 et de l'UE ont appelé à un retour rapide aux institutions démocratiques. Et ce matin, plusieurs partis d'opposition en Tunisie ont dénoncé devant la presse le coup de force du président. La colère monte depuis des mois. Plusieurs manifestations anti-Sayed ont été organisées. Des rassemblements sont d'ailleurs prévus ce vendredi, 11 ans jour pour jour, après l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, qui avait déclenché le soulèvement contre la dictature de Ben Ali. Kaïs Sayed a récemment fait de ce 17 décembre, vendredi, donc le nouvel anniversaire de la révolution. Pour lui, le 14 janvier, date de la chute de Ben Ali, n'est pas adaptée, car la révolution tunisienne est toujours en marche, dit-il.
Mais du coup, question, est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui pour la Tunisie ?
D'un côté, oui, Fabienne, la dérive autoritaire de Kaïs Sayed, indéniable, sa mégalomanie invite à la plus grande vigilance. Le président tunisien semble vivre à l'écart du monde, au palais de Carthage, avec sa garde rapprochée. Sa supposée popularité est discutable. Il a nommé en octobre un gouvernement dirigé par une femme inconnue, Najla Boudène, au pouvoir limité. La semaine dernière, il a reçu son homologue palestinien Mahmoud Abbas, et les deux hommes ont tenu une conférence de presse, tenez-vous bien Fabienne, sans journaliste. C'est original, oui. Certains Tunisiens reprochent au régime de se durcir. En novembre, par exemple, près de Sfax, des manifestations contre une déchetterie jugée dangereuse ont été durement réprimées. Un mort, plusieurs blessés. Mais à vrai dire, Kaïs Sayed n'effraie pas encore la Tunisie. La population le juge intègre et lui sait gré d'avoir lancé une campagne anti-corruption. Des dizaines d'hommes d'affaires ont été arrêtés. Surtout, la vraie préoccupation des Tunisiens, c'est la crise économique. Croissance anémique, chômage à 18%. Voilà ce qui anime aujourd'hui les conversations à Tunis. Une certitude, la société civile s'est profondément transformée depuis 2011. Et si Kaïs Sayed abuse réellement de son pouvoir, elle descendra dans les rues pour lui faire entendre raison. À ce stade, l'heure d'une nouvelle révolution n'est sans doute pas encore venue.
Franck Madvon, merci beaucoup. Le Monde d'après, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde, le 18-20. Ça continue avec le journal d'Hélène Philly dans un tout petit instant. Et puis juste après, ce sera à vous de jouer avec le téléphone sonne. Ne changez rien. On revient dans un tout petit instant.